Radio Capi.
Oh, Capi. Le journal, présenté par Pascal Masserica.
Les titres de l'actualité, le Nord-Kivu est actuellement alimenté en pommes de terre par le Malawi, la Tanzanie et le Kenya. D'autres produits vivriers viennent quotidiennement des pays voisins de l'Est. C'est la conséquence de la guerre imposée à cette province. 500 personnes sans abri et des bâtiments scolaires endommagés. Bilan d'une pluie diluvienne qui s'est abattue ce week-end sur la cité de Dungu dans la province du Haut-Uele. La commission diocésaine Justice et Paix de l'Église catholique appelle le gouvernement central à assister au plus vite les sinistrés. Notre invitée, c'est la responsable de la communauté santé Gidio d'Uvira au Sud Kivu. Madame Marie-Claire Kabbala appelle les communautés locales et les confessions religieuses de ces territoires à promouvoir la paix. Madame, messieurs, bonsoir. Avant d'aller plus loin, sachez que la Cour constitutionnelle vient de valider aujourd'hui toutes les candidatures à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain en RDC. La liste passe de 24 candidats à 25 avec l'ajout de la candidature de Madame Joëlle Bilé. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Et puis la contribution du Conseil d'État à la consolidation de l'état de droit dans le traitement des litiges relatifs au patrimoine immobilier du domaine privé de l'État. C'est le thème de la rentrée judiciaire du Conseil d'État ce lundi au Palais du Peuple ici à Kinshasa. Face à la dégradation quotidienne du volume de ce patrimoine, il y a lieu, selon la première présidente du Conseil d'État, d'envisager diverses solutions, notamment ne pas laisser les spoliateurs agir impunément. Grenier de la RDC par excellence, le Nord Kivu est actuellement approvisionné en pommes de terre par le Malawi, la Tanzanie et le Kenya. D'autres produits vivriers viennent de pays voisins de l'Est. C'est la conséquence de la guerre imposée à cette province. Pour en parler, retrouvons à Goma Denise Lukeso.
Il suffit d'arriver dans les dépôts de pommes de terre dans différents marchés de Goma pour constater la rareté de ces produits. Les zones de production sont touchées en plein fouet par la guerre. Les paysans sont en majorité en déplacement. Actuellement, une grande quantité de la pomme de terre consommée dans la ville de Goma provient des pays de l'Est, comme le témoigne ici le président de l'association des vendeurs des produits vivriers, Oscar Bizimana.
C'est vraiment écœurant. Aujourd'hui, nous nous ravitaillons en pommes de terre en provenance de Malawi. Nous traversons trois à quatre frontières. D'autres proviennent de la Tanzanie et du Kenya. On les transporte dans des gros camions. Arrivé à la frontière, on place un plomb. Ça passe sans payer la douane et cela entre au Congo. Ils font 5 à 6 jours pour arriver ici. Nous n'avons pas de choix. Aujourd'hui, manger de la pomme de terre, ça devient difficile. Et pourtant, on a de la pomme de terre en provenance de Mushaki, ici à 40 km de Goma. Nous demandons la paix pour que nous ayons de la nourriture.
Sur les marchés, un sac de 5 kg se négocie actuellement entre 125 et 130 dollars américains. Une situation qui déplore les commerçants qui interpellent le gouvernement de mettre fin à la guerre afin de reprendre leur production agricole. Goma, Denise Lukeso, Radio Capi.
L'actualité, c'est aussi la poursuite aujourd'hui des affrontements au Nord Kivu entre les FARDC, des miliciens locaux et les rebelles du M23 RDF à l'ouest de la localité de Kibumba et dans le parc national de Virunga. C'est après une brève accalmie de la nuit dernière. Explication de Bernard Danyangi.
Ces combats ont repris à nouveau ce lundi après une brève accalmie la nuit dernière. Des tirs d'artillerie lourdes se concentrent toute la journée dans le parc de Virunga, ouest de la zone appelée communément Trois Antennes, en groupement de Bumba, selon plusieurs sources. Cette zone est le théâtre des affrontements depuis presque 4 jours consécutifs maintenant entre les forces armées congolaises et les groupes armés locaux contre les rebelles du M23 et leurs alliés qui tentaient sans relâche de déborder par le parc pour attaquer la ville de Goma. Depuis 3 jours, tout trafic et mouvement de population sont suspendus dans cette zone de combat située dans le triangle Kanyamaoro au nord du groupement de Kibati, Kingarame, dans le parc et Kibumba. Du coup, les taximens moto qui avaient acheminé les clients en provenance de retour pour Goma ne peuvent plus retourner dans le territoire et les habitants de Goma et Nyiragongo, qui se ravitaillent déjà en charbon de bois et autres produits vivriers sur cet axe, sont bloqués. Pendant ce temps, nos sources parlent d'un mouvement de renfort que recevraient les rebelles du 23 dans Kibumba et Bumba et qui ne présageait rien de bon sur la suite de cette guerre dans cette zone où les lignes ne bougent pas après autant de jours de violents combats. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Et puis les cours sont suspendus depuis ce matin dans toutes les écoles de la ville de Beni au Nord Kivu. En cause, les enseignants ont répondu au mot d'ordre de leur syndicat qui appelle à 3 journées de deuil pour honorer la mémoire de 3 enseignants qui ont été tués mardi dernier par des rebelles ougandais de l'EDF à Oicha. Des précisions avec le représentant du dit syndicat des enseignants, Christophe Kanyamboué, au micro de Sadiki Aboubakar.
Les anciens ne sont pas à grève, ils sont à deuil. Ils sont en train de s'organiser pour aller pleurer avec le leur. Vous savez qu'on a tué vraiment les enseignants à Oicha, les autres à Kassindi avec leur famille, Kassabri chez le voisin. On ne doit que pleurer avec lui. C'est comme ça que les enfants sont arrivés à l'école à l'absence des enseignants. Ça va prendre 3 jours puisque ça fait trop mal. Une façon pour nous de faire comprendre notre cri d'alarme, ceux qui sont censés nous sécuriser vraiment de le faire. C'est pourquoi nous disons qu'en attendant que les enquêtes soient révélées selon la demande des enseignants à Oicha, nous à Beni, nous les accompagnons, nous pleurons avec eux pendant les 3 jours. L'éducation reste parmi les chevaux de bataille du président de la République. Et ce que nous demandons aux autorités, c'est nous sécuriser. Comme toute la population, nous demandons vraiment un regard particulier des autorités.
L'audace de la paix, c'est le thème d'une rencontre organisée ce week-end à Uvira, au sud Kivu, par la communauté Santé Jidio avec les différentes confessions religieuses et les représentants des communautés locales. Au centre de préoccupation, la religion et la culture du dialogue pour la paix à Uvira, la correspondance de Fiston Goma Mayabala.
Chaque intervenant a expliqué la pratique de la paix au sein de sa communauté ou de sa religion. Pierre Dumata, toi, a représenté la communauté Bavira.
À Makobola, chez moi, il y a des monuments. Et quand on traverse même la rivière Kamba, on va voir aussi d'autres monuments qui rappellent vraiment des messages trop piquants dans la mémoire de la génération future. Le monument sur le massacre, c'est pour montrer à la génération future qu'est-ce qui s'est passé. Mais pas dans l'allure de garder ça comme haine. Ça doit nous donner une idée de ne plus tomber dans ce piège en consolidant la paix.
Cet intervenant a souligné la nécessité de restituer aux jeunes les acquis des engagements et accords de paix et de cohésion sociale signés dans les différentes rencontres de paix au niveau local et régional. Les représentants de l'Église catholique orthodoxe et de l'Église catholique romaine ont insisté sur la lutte contre la violence, alors que le vice-président de la mutualité des ressortissants du Maniema, Soudi Yaoudi, a parlé d'une activité sportive qui promeut la paix comme un comportement que chacun devrait adopter dans son milieu de vie. Cette conférence a été bouclée par plusieurs actes symbolisant la paix. Douvira Fistongo Mamayabala, Radio Okapi.
Et dans la Tchopo, le commandant de la 31e région militaire rappelle aux officiers, sous-officiers et aux hommes des troupes la nécessité qu'il y a de protéger l'intégrité territoriale de la RDC, le maintien de l'ordre public et de la participation à la reconstruction du pays. Appel lancé ce lundi à qui Sangani lors d'une grande parade entre les FARDC et la police nationale au camp Sergent Kétélé. Le général-major Timothée Mujinga a insisté également sur l'apolitisme des hommes en uniforme. Ses propos ont été recueillis par Jacques Mukonkole.
Notre constitution consacre l'apolitisme des FARDC et de la police nationale congolaise. Nous ne sommes ni électeurs ni éligibles. D'ici là, la campagne va commencer. Les élections vont bientôt avoir lieu. Nous ne serons derrière personne. Nous les laisserons jouer leur jeu. C'est sûr que nous sommes apolitiques, mais les mamans et les enfants ne les sont pas. S'ils s'engagent dans les activités politiques, ils doivent le faire en dehors des camps. Qu'on n'entende pas dire que ma femme est présidente sectionnaire d'un parti X et que l'on va tenir une réunion politique chez moi. Non. Mon enfant est revenu avec de l'argent qu'on leur a remis à une réunion politique et que le partage se fera au camp, à la maison. Cela ne doit pas se faire. Ou porter soi-même à la maison un t-shirt qui a été offert à la maman. C'est défendu.
À cette même occasion, le responsable de la 31e région militaire a présenté le commandant de la police nationale, le commissaire divisionnaire adjoint François Kabeya Makossa et ses 3 adjoints. Économie à présent, c'est une nouvelle qui défraie actuellement la chronique sur les réseaux sociaux à Kinshasa depuis ce week-end. Les 9e Jeux de la francophonie auraient coûté à la RDC 324 millions de dollars américains contre 48 millions de dollars américains initialement prévus. Révélation faite samedi à la presse par le ministre des Finances Nicolas Gazadi. Un reportage de Sintabashi Zinabizana.
Le ministre des Finances a précisé que les dépenses en investissement sont passées de 36 à 246 millions de dollars américains, alors que le budget des opérations est, lui, passé de 12 à 78 millions de dollars américains. Comment expliquer cette explosion budgétaire, surtout pour les opérations, Nicolas Gazadi?
Le problème que nous avons eu, je me permets de le dire, c'est que le directeur national des Jeux, de son propre chef, a décidé d'augmenter des rubriques et des budgets, sans l'aval même du comité de pilotage. Et nous devons améliorer notre capacité à planifier les choses pour qu'elles soient faites correctement et que ça renforce notre crédibilité lorsque nous prétendons à organiser des événements.
De son côté, Isidore Kwanja, directeur du comité national des 9e Jeux de la francophonie, s'interroge sur les révélations du ministre des Finances. Nous savons que le budget adopté par le comité de pilotage et approuvé par l'Organisation internationale de la francophonie était de 66 900 000 euros que nous n'avons toujours pas encore encaissé en totalité, a déclaré Isidore Kwanja sur son compte Twitter. Sur terrain, entre-temps, plusieurs prestataires lors de ces Jeux organisés du 28 juillet au 6 août 2023 ne sont toujours pas payés.
Merci Cynthia Bachizina-Bizana pour ces précisions. Notées que ces chiffres ont été aussitôt rejetés en bloc par le directeur national du comité des Jeux de la francophonie pour qui, s'il y a eu un quelconque dépassement du budget dont on parle, les raisons sont selon lui à chercher ailleurs. Plus de 500 personnes sont sans abri. Leurs maisons ont été détruites par les eaux de pluie suivies d'inondations lors du débordement de la rivière Kibali le week-end dernier à Dungu Centre dans la province du Haut-Ouélé. Dans son rapport publié ce lundi, la commission diocésaine Justice Paix affirme qu'environ 10 bâtiments scolaires sont également endommagés. Cette structure de l'Église catholique demande par conséquent au gouvernement et à ses principaux partenaires d'assister les sinistrés. À Bounia, le récit de Martial Kizabiamungu.
La cité de Dungu connaît depuis la semaine dernière des fortes pluies accompagnées de vents violents. La commission diocésaine de justice paix, CDJP, Dungu de Roma, indique que plusieurs maisons d'habitation, des établissements scolaires et des champs des paysans ont été détruits par les eaux de la pluie, ce qui a obligé les victimes à se déplacer dans le milieu non affecté par ces phénomènes naturels. Plusieurs familles sont sans abri et passent la nuit à la Belle Étoile et des centaines d'enfants ne vont pas à l'école. L'abbé Jean-Pierre Bagoudekia, responsable de cette organisation catholique, sollicite une aide d'urgence en faveur de ces sinistrés qui vivent dans des conditions précaires.
Depuis ces événements des inondations, la population sinistrée n'a bénéficié d'aucune aide. C'est pourquoi nous lançons un vibrant appel au gouvernement central et au gouvernement provincial et à toute personne de bonne volonté, des organismes d'aide humanitaire, de venir au secours de ces sinistrés.
Il demande aux autorités scolaires de faciliter la délocalisation des écoles affectées par ces catastrophes pour permettre aux élèves de ne pas rater cette année scolaire. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
À Beni, le gouvernement vient d'approvisionner la prison des Kangwaï en médicaments essentiels et en nourriture dont la quantité n'a pas été révélée. Depuis 3 mois, en effet, des détenus meurent suite à la malnutrition, au manque de médicaments essentiels et à la surpopulation carcérale. Tout en saluant ce geste du gouvernement central, le président de la société civile appelle les autorités judiciaires à désengorder cette prison. Pépin Kavota s'est confié à Martial Papi Moukeba.
La coordination de la société civile de Beni remercie le gouvernement central pour l'acte de générosité qu'il venait de faire aux pensionnaires de la prison centrale de Beni Kangwaï en amenant des vivres et des médicaments. Néanmoins, cette structure citoyenne continue à alerter sur la situation carcérale dans cette prison centrale de Beni, devenue un mouroir depuis un certain temps. Désormais, il ne se passe pas une semaine que l'on n'assiste pas à des décès. Considérant les surnombres, cette prison regorge 1444 détenus, alors que sa capacité, nous les connaissons, est de 250 détenus. Il est donc plus qu'urgent que tous les auxiliaires de la justice, les acteurs de la justice, les ministères des tutelles se penchent sur cette question très préoccupante.
Actualité internationale.
Alors qu'Israël est en train d'intensifier ses bombardements, l'État hébreu accentue également ses interventions terrestres appuyées par des chars d'assaut. Des blindés ont été aperçus aujourd'hui à la lisière de la bande de Gaza où des témoins affirment que les engins ont bloqué systématiquement la circulation du principal axe routier entre le nord et le sud de la bande de Gaza. Le nouveau bilan qui a été dressé aujourd'hui par le Hamas fait état de 8306 Palestiniens morts dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre. Et puis, c'est 30 octobre 2023 en Russie, c'est la journée annuelle du souvenir des victimes de la répression politique dans un pays où on accélère en même temps le retour des statues de Staline. En Guinée également, la réhabilitation d'Ahmed Sékou Touré par les autorités politiques de transition provoque un vif débat. L'ex-président du pays est considéré comme un tyran par certains et comme un héros par d'autres.
L'invité.
Notre invité, c'est la responsable de la communauté Saint-Égidio d'Ouvira au sud Kivu. Madame Marie-Claire Kabbala appelle les communautés locales et les confessions religieuses de ces territoires à promouvoir la paix et s'entretient avec Fiston Gomama Yabala.
Bonjour madame.
Bonjour, moi c'est madame Marie-Claire Kabbala, responsable de la communauté Saint-Égidio d'Ouvira.
C'était quoi l'activité et la journée d'aujourd'hui pour Saint-Égidio?
Oui, l'activité d'aujourd'hui était la prière interreligieuse, donc une conférence pour la paix. Dont le thème de cette année, on a traité, c'est l'audace de la paix. C'est une conférence qui est tenue au niveau mondial et au niveau de la RDC, on a choisi cette date aujourd'hui, du 28 octobre comme mémoire. Pour faire cette conférence pour la paix.
Vous avez parlé de la religion et culture, dialogue entre les deux concepts. C'est quoi au juste? Est-ce qu'il y a vraiment dialogue entre religion et culture?
Nous invitons toujours différentes religions et nous invitons aussi les gens des différentes tribus pour nous parler ensemble pour chercher la paix. Parce que le Seigneur nous a appelés tous amis. Il n'a pas appelé quelqu'un esclave de l'autre. Nous sommes tous des amis, nous devons nous parler en religion et culture, toujours en dialogue.
Quelle analyse faites-vous de cette paix dans la religion, dans la culture ou les communautés? Quelle est l'analyse que vous faites par rapport au contexte d'Ouvira?
Par rapport au contexte d'Ouvira, nous voyons que les religions s'entretiennent, les tribus aussi s'entretiennent. C'est pourquoi nous cherchons toujours à nous mettre ensemble pour parler un peu sur la table, trouver une solution directe. Nous avons l'obligation de vivre ensemble. Quelqu'un n'a pas fait une invitation pour naître dans cette tribu ou bien d'être d'une religion, d'une autre. Mais la communauté Saint-Égide nous invite à s'unir toujours ensemble et de trouver une paix durable.
Qu'est-ce que vous avez retenu de tout le message lancé par les différentes communautés invitées ici dans votre rencontre?
Nous avons invité les communautés Bembe, les Banyamulenge, les Bavira, les Bafulero, les Bashi, les Balega, les ressortissants du Manier. Donc, toutes tribus différentes qui résident à Ouvira, nous les avons appelées et ils ont répondu massivement à cette invitation. Tous ont lancé toujours les messages de paix et ils étaient intéressants du sujet d'aujourd'hui qui nous amène toujours à la paix. Pour être ensemble, il faut chercher la paix. Ce sont les représentants des tribus différentes qui sont à Ouvira. Et il y a eu aussi présence des différentes religions comme l'église orthodoxe et les musulmans, les représentants de l'évêque. Il y a eu aussi la présence des numéro 1 de la ville, le premier citoyen qui est le maire de la ville. Il y a eu les colonels, l'armée qui a été valablement représentée et les parquets aussi valablement représentés. C'est quelque chose de bon parce que le sujet était vraiment intéressant pour tout le monde.
L'objectif que poursuit Saint-Égidio, c'est quoi au juste toutes ces rencontres?
Et à travers toutes ces rencontres, la communauté Saint-Égidio poursuit toujours les trois paix, dont la prière, la paix et les pauvres. Donc nous devons être ensemble pour lutter contre la pauvreté. Nous luttons ensemble de vivre ensemble. C'est ça le mot englobant de vivre ensemble. La communauté Saint-Égidio, un groupe, un mouvement de laïcs dans le sens écuménique qui se réunissent pour lutter pour trois paix. Donc la prière, quand on se réunit, on prie, on lit la parole de Dieu. quand on se réunit, on traite le dossier pour la paix. Et aussi, les pauvres sont nos amis. Parce que le Christ lui-même était pauvre, qui est né dans un majeur, il était pauvre. C'est pourquoi nous aussi, nous faisons le service aux pauvres. La communauté Saint-Égide est née à travers les pauvres, les enfants de la rue, les enfants oubliés dans nos familles, dans nos quartiers, dont Andrea Riccardi, à partir de l'Italie, qui est le fondateur, il a initié ce mouvement des enfants pour les accueillir, de prier ensemble, d'être toujours les amis. Donc Andrea Riccardi, c'est le fondateur. La communauté est née depuis 1968 en Italie. Et nous sommes toujours aux ancêtres de l'Église catholique, mais nous prions avec les musulmans, les bouddhistes, les protestants, toutes couches différentes religions, comme aujourd'hui, c'est une rencontre interreligieuse. Donc, nous sommes tous frères, sans distinction.
Votre dernier message?
Message de la communauté. Je nous invite tous de prier pour la paix, de ne pas désespérer à la paix. Nous devons toujours prier pour la paix et toujours espérer à la paix. On ne peut pas se résigner, on ne peut pas aussi avoir peur que quelque chose est impossible. Il y a toujours de l'espérance et nous devons toujours faire l'effort de prier comme le Christ nous a demandé dans l'évangile de Luc, prier sans cesse. Donc nous sommes censés de prier sans cesse pour qu'il y ait une paix durable dans notre entité d'Ouvira.
Marie-Claire Kabbala, merci beaucoup.
Merci, monsieur le journaliste.
C'était l'invité de Radio Okapi, la responsable de la communauté Saint-Égidio d'Ouvira au Sud Kivu, madame Marie-Claire Kabbala, interviewée par Fiston Ngoma-Mayabala. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Okapi. Merci d'avoir écouté. Infiniment merci à Noëlla Luzitu Kabambi qui l'a coordonnée sous la supervision éditoriale de Pelle Kipela Mundo.